autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Oreilles chastes s'abstenir aujourd'hui, car nous allons explorer la sexualité animale dans son incroyable diversité morphologique d'abord. Pénis sonore, double ou même détachable, clitoris géant, hermaphrodisme. Tous les organes sont dans la nature et en lien direct avec une multitude de pratiques sexuelles. Fellation, cunnilingus, transsexualité, homosexualité, mais aussi viol ou castration chimique, masturbation et orgasme, car le plaisir peut aussi être au rendez-vous. Pourquoi une telle biodiversité sexuelle, aussi fascinante que déconcertante? Pourquoi certaines espèces n'en ont pas, pendant que d'autres en ont deux? Pourquoi une telle variabilité de formes et de pratiques? Il y a de quoi s'interroger. Ce que nous avions fait en décembre dernier, avec Emmanuelle Pouy-Débat, directrice de recherche au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui après s'être intéressée à l'intelligence animale, s'est donc attaquée au sexe, dans un ouvrage à nul autre pareil, Sexus Animalus, superbement illustré par Julie Terrazzoni, aux éditions Artaud. Alors juste pour le plaisir de la chose, nous vous proposons de réécouter cet entretien autour de la question « Pourquoi tous les goûts et tous les organes sont dans la nature ?» Bienvenue sans tabou pour oser toutes les interrogations.
L'œuf, conséquence de la poule, conséquence de l'œuf. Quel binôme célèbre s'il en est du monde des causes et des conséquences. Eh bien, envisageons ce soir un troisième élément, le coq. À la fois élément capital et secondaire de la relation œuf-poule. Secondaire, tout le monde sait pourquoi. Primordial, car il faut qu'il féconde l'œuf pour que celui-ci donne naissance à un poussin, etc., et redonner naissance au fil des causes et des conséquences. Et voilà le coq qui représente la question la plus épineuse à laquelle la science a eu à se confronter, une question qui reste encore aujourd'hui sans réponse, sur le coq où se trouve la bite.
Et voilà pourquoi et comment les coqs ont-ils perdu leur pénis? Question fort à propos, soulevée par le comédien humoriste Alexandre Astier. Question à laquelle les chercheurs ont même réussi à apporter un embryon de réponse. Bonjour Emmanuelle Pouy-Débat.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous depuis chez vous pour partager vos observations et vos interrogations, vos recherches aussi sur la sexualité chez les animaux. Après vous être intéressé dans un précédent ouvrage qui a connu un grand succès d'ailleurs à l'intelligence des animaux, vous venez de publier, Emmanuel, aux éditions Artaud, un ouvrage extraordinaire à tous les sens du terme, Sexus Animalus, illustré, je l'ai dit, par Julie Terrazzoni. On y reviendra car les illustrations sont géniales, vraiment fascinantes. Ouais. Je rappelle que vous êtes vous-même directrice de recherche au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle, médaille d'argent du CNRS, spécialiste de l'évolution des comportements. Vous coordonnez de nombreux projets interdisciplinaires, que ce soit sur les éléphants, les singes, les oiseaux, les arthropodes. Et ce sont précisément les jeunes chercheurs et surtout chercheuses avec qui vous travaillez qui vous ont mis, si j'ose dire, la puce à l'oreille en lançant il y a quelques années dans votre équipe un jeu d'identification des pénis d'animaux qui s'est révélé être un vrai défi, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est un jeu auquel les étudiants jouaient. Ça rigolait beaucoup. Je suis allée voir ce qui se passait. Et en fait, sur les écrans d'ordinateur, circulait un quiz. Donc, il y avait une série de photos de pénis qui circulaient, une vingtaine. Et il fallait trouver à quel animal le pénis appartenait. Et j'ai voulu jouer et j'ai perdu, très largement. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant tous ensemble qu'on était très mauvais et que c'était pas normal pour des biologistes. Et donc, l'idée est venue, on m'a suggéré l'idée, on m'a lancé le défi, disons, d'écrire un livre là-dessus. Et voilà, ça a pris un peu de temps, mais c'est chose faite.
C'est chose faite et magnifique, hein, vraiment. Ouvrage dont je vous le rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir. Et on se rend compte, parce que c'est ça qui saute aux yeux, si j'ose dire, en plus avec les magnifiques planches de Julie Terrazzoni, c'est pourquoi tant de diversité, alors morphologique, d'abord, d'organes, c'est insensé. Il y a de tout, mais vraiment de tout.
Oui, c'est vraiment insensé. Et comme vous dites, il y a de tout. Il y a des pénis géants, doubles, quatre glands accrochés avec des épines, des mobiles, des sonores, des détachables. Pareil pour les clitoris avec os, sans os, etc. Bon. Et cette diversité, en fait, vous savez, elle est liée tout d'abord au fait que voilà, les animaux, ils évoluent depuis des centaines de millions d'années. Ils s'adaptent. En s'adaptant, la morphologie, forcément, elle crée de la diversité. Et les organes génitaux, ils sont liés à cette diversité, hein, ils n'ont pas échappé à cette diversité de morphologie. Après, c'est vrai qu'il y a une très forte compétition pour l'accès au sexe opposé, pour pouvoir s'accoupler
c'est
et
ça.
Se reproduire.
Oui.
Et en général, plus il y a de compétition, plus les individus essayent de se distinguer les uns des autres, et la morphologie du pénis, elle peut en faire partie de cette diversité.
C'est ça. Alors par exemple, évidemment, on va s'arrêter puisqu'on parle quand même souvent beaucoup de longueur, hein, du sexe. Alors je pense que le plus long, c'est l'éléphant africain. La longueur du pénis de l'éléphant africain, elle a
oui.
de quoi estomaquer, si j'ose dire.
Oui, c'est sûr que l'éléphant, pour nous humains, c'est un pénis qui fait 2 mètres de long, donc forcément c'est assez impressionnant.
Oui.
Alors en plus c'est un animal qui se reproduit relativement peu, hein, c'est tous les 5 ans à peu près. Pour un animal qui fait en moyenne 6 tonnes, ça peut varier, hein, mais en moyenne 6 tonnes. Donc forcément l'accouplement c'est un enjeu qui est fondamental.
Faut pas se rater. Si ça a lieu qu'une fois tous les 5 ans, vaut mieux. Oui, c'est ça.
Voilà. Et en plus ce qu'on sait très peu, c'est que l'orifice, enfin l'appareil génital de la femelle, il est éloigné d'1,30 m à peu près de l'orifice extérieur. Donc du coup, la longueur du pénis du mâle, elle est vraiment appropriée pour assurer la fécondation. Après, si on rapporte la taille du pénis à la taille de l'animal, c'est un petit crustacé qui s'appelle le bernacle, qui a probablement un des pénis les plus longs, puisqu'il fait 8 fois sa longueur.
Ah oui, c'est pas mal. Et on sait pourquoi il est si long que ça? Enfin, pourquoi? Enfin, il y a aussi une
oui,
raison.
Il y a probablement une vraie raison. En fait, le bernacle, ça fait partie des animaux qui sont accrochés à un substrat, à un support, sous l'eau la plupart du temps. Et donc, pour s'accoupler, il est accroché. Donc, le fait d'avoir un long pénis, ça lui permet de pouvoir s'accoupler à distance, j'ai envie de dire.
C'est ça, sans même quitter son caillou. Autour de la question pourquoi tous les organes, on n'a pas fini, on ne fait que commencer, sont dans la nature. Et puis, pourquoi il y a deux sexes, même si certains en ont plus et d'autres pas du tout. Je propose de commencer ce tour d'horizon de la sexualité animale par un petit mix concocté à partir des vidéos du biologiste Léo Grasset sur sa chaîne Dirty Biologie, qui n'a jamais aussi bien mérité son nom.
Pourquoi est-ce qu'il y a des mâles et des femelles? Bon, reprenons depuis le départ. Au début de l'histoire de la vie, les organismes se reproduisaient sans sexe. Ils se divisaient simplement, pif pouf, reproduction, copie. Pas de mâle ni de femelle ici, tout le monde est pareil. Comme chaque individu donne la moitié de son ADN pour en créer un troisième, la solution la plus simple qui a été trouvée est que chaque partenaire crée une cellule spécialisée qui contient cet ADN. Ces cellules spécialisées s'appellent des gamètes, et chez nos très lointains ancêtres, elles étaient de la même taille. Avec le temps, ces cellules sexuelles ont commencé à changer. L'une est devenue plus petite, ce qu'on appelle par définition un spermatozoïde, et l'autre est devenue plus grande, ce qu'on appelle par définition un ovule. C'est juste leur définition biologique. Pourquoi les hommes ont-ils un phallus? Pourquoi certaines espèces n'en ont pas? Et à quoi sert vraiment un pénis?
Cette vidéo contient des extraits de copulation animale, des photos et vidéos de pénis d'animaux, et même des explosions.
On peut donc maintenant répondre à rentrer à l'intérieur de la femelle pour y déposer le sperme, mais pas que. Ils servent aussi à trouver l'entrée, boucher, nettoyer, s'accrocher, mutiler, stimuler, transpercer, aveugler, voire même jouer de la musique. De la même façon que pour les chiberons, les organes sexuels féminins, dont on a si peu parlé jusqu'à présent, ont aussi évolué pendant des millions d'années, et pour tout bien comprendre, il faut faire un peu d'anatomie de base. C'est chez les ancêtres communs des mammifères terriens, un groupe qui comprend les marsupiaux et nous, qu'on le retrouve pour la première fois. C'est un organe qui n'existait absolument pas avant et qui n'a aucun homologue dans le monde vivant, alors les filles, soyez fiers de votre vagin, il est unique. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface du monde enfoui et merveilleux des organes génitaux féminins, qui peuvent d'ailleurs avoir un nombre de fonctions très impressionnant.
Bon, soyons fiers de nos vagins, de nos vulves, nos clitoris. C'est pas souvent qu'on entend ça, Emmanuel Pouy-Débat. Car le sexe féminin, c'est souvent le ou la grande oubliée des études sur la sexualité animale.
Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est vraiment dommage, ça constitue un vrai biais scientifique, parce qu'on ne peut pas comprendre les coévolutions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment les organes génitaux masculins ont évolué en parallèle des organes génitaux féminins, et inversement. C'est vraiment des phénomènes de coévolution, c'est-à-dire qu'un organe, d'ailleurs ça vaut pour d'autres organes aussi, hein, un organe chez le sexe masculin ou féminin, il va évoluer en s'adaptant à son environnement, à des nouveaux contextes sociaux, etc. Et donc en réponse, les organes du sexe opposé vont aussi évoluer. Et si on ne comprend pas assez ce qui se passe au niveau des organes génitaux féminins, que ce soit au niveau du vagin et autres systèmes génitaux qui existent dans le monde animal, notamment chez les insectes, les spermathèques, etc.
Les spermathèques, si arrêtons-nous sur les spermathèques, ouais, c'est Emmanuel Puy-Débat.
Bah oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des espèces animales, alors pas chez nous, hein, nous les humains on sait pas faire ça, mais qui savent stocker, le sperme qu'elles ont reçu pendant les accouplements et qu'elles vont réutiliser ensuite plus tard au moment où elles vont s'auto-féconder en fait avec le sperme qu'elles ont stocké. Ça existe chez différents insectes et ça c'est assez génial. Ce sont des stratégies, j'ai appelé ça, je pense dans le bouquin, les femelles ripostes, c'est-à-dire c'est que ça. En guise des multiples, en disant en réponse aux multiples agressions que les femelles subissent parfois oui. des mâles, eh ben elles ont développé tout un tas de stratégies comme ces espèces de banques de sperme qu'on va trouver chez les insectes, les araignées, des chauves-souris aussi, qu'elles vont utiliser. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a des femelles dauphins, par exemple. Elles ont un système de clapet qui va empêcher le sperme de passer quand c'est un mâle légèrement violeur qui les a approchés. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de... Et puis, il y a aussi des clitoris qui comprennent des os, comme des pénis qui contiennent des os. Ça existe. Et moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Voilà. Pourquoi est-ce que... certains mâles ont des os péniens, certaines femelles ont des os clitoridiens et d'autres pas. Voilà. Ça, ce sont des phénomènes de coévolution qui sont extrêmement intéressants à comprendre.
Oui, ce sont des vraies questions hein, autour de la question justement pourquoi tous les goûts et pourquoi tous les organes sont dans la nature. Alors, nouvelle question scientifique également pour vous, Emmanuel Puy-Débat, à laquelle il est probablement difficile de répondre. Elle est soulevée par une autre chercheuse, Audrey Dufutour, spécialiste mondiale, le mot n'est pas trop fort, spécialiste mondiale du blob.
Le blob, il a 1 milliard d'années et il présente 720 types sexuels et de nombreux unicellulaires présentent de nombreux types sexuels. Je voulais savoir pourquoi dans l'évolution, chez les animaux et les plantes, on a convergé vers juste 2 sexes.
Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que vous avez un embryon de réponse peut-être, Emmanuel Puy-Débat ?
Bah, j'en sais rien, mais j'ai envie de répondre à Audrey Dufutour. Il faudrait déposer un sujet de thèse là-dessus avec grand plaisir.
C'est ça, hein, pourquoi finalement deux sexes ? Pourquoi tant de différents sexes au départ ? Donc c'est pas uniquement pour la reproduction, parce que c'est peut-être plus simple parfois de faire sans sexe.
Ah oui, complètement, bah, comme beaucoup d'unicellulaires. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas intuitif de se dire que si certains organismes ont plus de 700 sexes, disons, et que nous, bah voilà, sur la reproduction sexuelle, il y en a plus que 2. C'est pas intuitif de se dire que c'est une réussite évolutive. En fait, on a tendance à penser que ce qui est une réussite va perdurer. De la même manière que chez les oiseaux, il y a que 3% des oiseaux qui ont un pénis. Et c'est vrai que c'est pas intuitif de comprendre ça, parce que le pénis, ça permet quand même une fécondation qui est interne et qui donc a priori devrait faciliter la fécondation. Et pourtant, chez les oiseaux, il n'y en a que 3% qui ont gardé ça.
Allez, une petite musiquette, puisqu'on a parlé du sexe féminin qui était beaucoup moins étudié. C'est dommage, parce qu'il nous permettrait de comprendre l'évolution. Honneur aux demoiselles, autour de la question pourquoi tous les organes et tous les goûts sont dans la nature. On écoute une pépite de la chanson érotique réaliste, Les nuits d'une demoiselle, signée Colette Renard sur RFI.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin. Je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot,
Je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot. Je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison. Je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou. Je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Voilà qui est bien chanté par Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle sur RFI. Emmanuel Pouydéba, c'est un peu pour vous, cette chanson, on vous a retrouvé, vous êtes bien en ligne avec nous. Autour de la question, vous êtes là. Pourquoi tous les goûts et tous les organes sont dans la nature? Question donc ouverte dans votre ouvrage Sexus Animalus, Emmanuel Pouydéba, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs et auditrices qui vous interrogez par exemple sur la sexualité des demoiselles. Les demoiselles, ce sont des libellules, Emmanuel Pouydéba. Et je crois qu'elles aussi, elles aiment bien, comment dire, se débrouiller toutes seules.
Oui, comme beaucoup d'animaux. Après, ce qui est assez phénoménal chez les demoiselles, en fait, comme chez les libellules, c'est qu'il y a une position en forme de cœur qui est adoptée pour au moment de l'accouplement, puisque le mâle va courber son corps pour placer son édéage, son pénis, à un endroit où il va récupérer le sperme, parce qu'il n'est pas à côté de son organe, c'est pas très pratique, et ensuite il mêle pour justement l'accoupler. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, enfin rigolo, pas pour la femelle, mais qu'il a un EDH, donc un pénis qui est en forme de cuillère avec des épines. Au microscope, c'est assez
impressionnant.
Et donc, ça lui permet. Oui, c'est assez impressionnant. Et en fait, il va l'utiliser pour vider le sperme de ses rivaux, des prédécesseurs, pour essayer de s'assurer la paternité.
C'est ça. Donc, il fait le ménage d'abord pour ne laisser que le sien.
Mais...
Oui, alors que la forme en cœur est extrêmement poétique. On a une question d'un auditeur.
C'est partie des paradoxes.
C'est ça, mais il y en a plein des paradoxes. Une question à un auditeur à Cotonou qui demande si tous les animaux ont leur saison des amours. Est-ce que c'est ça qui nous différencierait des autres animaux? À vous lire, on n'a pas l'impression.
Non, pas forcément. Alors, c'est vrai qu'il y a des animaux qui ont des saisons. On connaît ça en France, on connaît ça chez le cerf, avec le brame du cerf, voilà, au moment de la saison des accouplements. Et puis, il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres, ils vont s'accoupler. Dès que les femelles vont être de nouveau en période d'ovulation, elles vont s'accoupler. L'idée chez beaucoup d'espèces, c'est de s'accoupler à chaque fois que les femelles vont être fécondables pour optimiser le nombre de naissances. Donc la saison des amours, on a l'impression qu'elle existe chez certaines espèces, voilà, les oiseaux qui vont chanter au printemps, mais bon, heureusement pour la survie des animaux, il y a beaucoup plus d'accouplements que de saisons.
Beaucoup plus d'accouplements, avec donc tout un tas d'organes possibles et imaginables. Tout à l'heure, on en venait à la question de ces pénis détachables, ou de ces pénis qui ne sont pas perdus du coq. On en revient à la question du coq soulevée par Alexandre Assier au début de cette émission, où est passée la bite, où est passé le pénis du coq, il a disparu avec l'évolution, c'est ça?
Oui. En fait, quand on a été coupé, on parlait d'une espèce de logique en fait qu'il n'y avait pas. Comme si, c'est pas logique que les oiseaux, que 97% des oiseaux n'aient plus de pénis aujourd'hui. Si on assume que le pénis c'est un organe qui est fondamental puisqu'il permet une fécondation interne, mais néanmoins il doit y avoir une logique quelque part, et c'est un peu ça le métier de chercheur aussi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a que 3% des oiseaux qui ont un pénis, même si ça paraît pas intuitif que c'était une bonne solution de les perdre. Donc chez les oiseaux qui ont un pénis, comme par exemple chez le coq, mais il y en a d'autres, je pense à l'autruche parce que là c'est un gros oiseau qui justement est relativement primitif dans l'évolution, c'est clair que honnêtement, j'ai pas la réponse. Alors il y a plein de, il y a des articles scientifiques là-dessus qui disent que soit les oiseaux primitifs, c'est-à-dire les premiers oiseaux avaient tous un pénis, puis au fil de l'évolution, beaucoup l'ont perdu au profit de ce baiser cloacal, c'est-à-dire la rencontre des orifices du mâle et de la femelle, qui finalement serait peut-être plus efficace que l'utilisation d'un pénis. Et puis d'autres pensent que en fait le pénis chez les oiseaux, il est apparu ou pas dans différentes lignées d'oiseaux et qu'il n'a pas forcément été perdu. C'est-à-dire que peut-être que certains oiseaux primitifs n'avaient pas de pénis depuis le début. Et on n'a pas la réponse, en fait, à savoir si c'est un organe qui s'est perdu au cours de l'évolution, ou s'il y avait une diversité dès le départ et puis que voilà, c'est resté comme ça.
Donc point d'interrogation. Mais on n'a pas réponse à tout. Eh ben non, c'est bien pour ça que vous êtes des chercheurs. Alors moi j'ai une autre question, enfin surtout sur ce que je ne savais pas sur un oiseau quand même assez commun, enfin le canard. Lui il a carrément un pénis canard, explosif, ouais. C'est ça, hein, explosif. Hein.
Oui, alors le canard, c'est vrai que c'est un animal qu'on voit depuis qu'on est petit, qu'on pense relativement commun, et pourtant, oui, il est assez assez extraordinaire. Moi, je l'appelle le violeur au tire-bouchon, c'est pas forcément pour lui servir, hein. mais en fait, donc le mâle, il a un pénis en tire-bouchon, et effectivement, il a une érection explosive, c'est-à-dire qu'il a une érection... Nous, les hommes ont des érections essentiellement sanguines. Chez les oiseaux, en tout cas chez le canard, c'est une érection lymphatique. Ça lui permet à son tire-bouchon, parce qu'il est vraiment en forme de tire-bouchon, oui, de se détendre extrêmement rapidement et donc de pénétrer la femelle profondément pour optimiser la fécondation. Hein. On en est toujours là.
Bien sûr.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce pénis, il va dégénérer en dehors de la période d'accouplement et ensuite, il va repousser.
Alors moi je peux rajouter, parce que j'ai bien lu votre livre Emmanuel Puydeba, que les femelles elles ont une petite parade, elles ont un vagin en spirale dans le sens opposé, très exactement en tire-bouchon. Et ben on va rester dans les oiseaux autour de la question pourquoi tant d'organes, une telle diversité, pourquoi tous les goûts sont dans la nature. On va même répondre à une question d'un de nos auditeurs, fidèle auditeur, c'est Miguel de Brazzaville, qui nous demande si l'homosexualité existe chez les animaux. Alors, ce sont d'abord deux ornithologues qui vont y répondre à cette question, grand amateur et observateur d'oiseaux, Guillaume Le Saffre et Marc Duquet, qui étaient récemment nos invités. On les écoute.
Chez les oiseaux, l'homosexualité existe également. Il y a une certaine catégorie de personnes qui parlent de l'homosexualité comme une déviance, un vice ou autre. Ça existe dans la nature chez la plupart des espèces animales. Ça fait partie du truc. Et l'homosexualité existe chez les oiseaux. C'est pas de l'homosexualité en tant qu'individu qui a une attirance spécifique pour les individus de même sexe que lui, mais ce sont des accouplements homosexuels, ce sont des rapports homosexuels. Ça existe chez les oiseaux, aussi bien entre mâles qu'entre femelles.
Chez quels oiseaux en particulier ?
La plupart des oiseaux, presque toutes les espèces, ça peut arriver. Sachant que les oiseaux n'ont, à la différence des êtres humains, n'ont pas un appareil génital différencié. Il y a, à part quelques canards, l'autruche qui ont un pénis, la plupart des oiseaux ont un cloaque, c'est-à-dire l'organe sexuel du mâle et de la femelle extérieurement est exactement la même chose. Et c'est pour ça que l'accouplement est qualifié de baiser cloacal, parce qu'en fait ce sont de sortes de bouches qui se mettent en contact l'une avec l'autre au moment de l'acte sexuel, si bien que ça facilite un rapport sexuel entre mâle et femelle, ou entre femelles, ça change rien puisque les organes sont les mêmes.
J'ajouterais, Marc, si tu permets, que le fait que les oiseaux, que beaucoup d'espèces d'oiseaux n'aient pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle et la femelle se ressemblent, fait qu'on passe à côté de certains cas d'homosexualité, certainement.
En plus, voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on l'a mis en évidence chez des espèces dont les mâles et les femelles sont très différents. Mais ça existe aussi, effectivement, ça se voit forcément moins chez des oiseaux, effectivement, où il n'y a pas de dimorphisme sexuel.
Emmanuel Puydeba, on vous a retrouvé par téléphone en pleine homosexualité des oiseaux. L'homosexualité, elle existe probablement bien plus qu'on ne le voit chez les animaux.
Ah oui, l'homosexualité, la bisexualité, c'est assez courant. On vient d'entendre les oiseaux, il y a plus de 1000 espèces d'oiseaux qui pratiquent l'homosexualité. Donc, et puis chez les mammifères aussi, hein, que ce soit chez les zèbres, les girafes, les gazelles, les éléphants, les moutons, les lamantins, j'en passe. Hein. Non, il y a énormément d'exemples, hein, et de bisexualité aussi. Hein. Et puis dans notre famille, hein, chez les primates, il y en a beaucoup aussi. Hein.
Dans notre famille, oui, chez les primates. Et il y a aussi de la transsexualité. Vous avez parlé de bisexualité, il y a aussi de la transsexualité.
Oui, alors ça, c'est un phénomène qui est un petit peu plus rare. Alors, transsexualité avec plein de guillemets aussi, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont être capables de changer de sexe au cours de leur vie. Vous connaissez tous le poisson clown, hein, c'est le fameux petit Nemo. En fait, chez ces poissons clowns, il y a une hiérarchie qui est très importante pour accéder à la place de chef. Hein. Et en fait, donc à chaque fois que le chef décède, les individus changent de position. Pour se rapprocher de plus en plus de la place de chef, et il peut arriver qu'il change de sexe dans ces changements de position si ça peut permettre de favoriser des accouplements. Donc c'est des changements de sexe, et pour la bisexualité et l'homosexualité, je préciserai quand même juste une petite chose quand même, c'est que parfois ce sont pour des affinités et pas seulement pour des accouplements sexuels.
Et ça peut arriver. Donc on arrive là à du sexe qui n'est plus pour la reproduction mais pour de la tendresse, oui. du plaisir. C'est pas un gros mot chez les animaux, le plaisir, même s'il y a des viols, la castration chimique et autres joyeusetés. Oui. Mais le plaisir existe aussi.
Ça arrive,
c'est ça.
Le plaisir existe aussi. Ah, oui. Entre mâles, entre femelles, et bien sûr entre mâles et femelles.
Bon, on va y revenir. Et puis il y a aussi des cadeaux. Alors ça, c'est chez les araignées. Racontez-nous comment les araignées se font des cadeaux sexuels, pour le coup.
Oui, bah là, je pense toujours à ma collègue Christine Rollard.
Absolument, du muséum.
Les araignées, ouais, du muséum, elle est exceptionnelle. Et les araignées, il y a énormément d'exemples exceptionnels. Et il y en a une, la Pisor admirable, c'est une araignée qui fait un cadeau à la femelle. Alors en fait, elle prend une proie et elle va l'emballer dans de la soie, dans de la soie. Ça fait vraiment un paquet cadeau en soie, c'est assez classe quand même. Et donc le mâle va offrir ça à la femelle. Et le temps en fait que la femelle déballe son cadeau, le mâle aura pris le temps de placer ses bulbes copulatoires dans la femelle pour la féconder. Et alors, fait extraordinaire, c'est que ces bulbes copulatoires sont détachables, c'est-à-dire c'est lui qui se les coupe quand même. Hein. Il enlève ses bulbes copulatoires et il s'en va, c'est-à-dire que la femelle continue d'être fécondée alors que lui, il est parti.
D'accord, il lui a laissé ses organes fécondeurs.
Exactement. Mm-hmm. Et ça peut lui permettre de survivre parce que ça peut arriver que les femelles mangent le mâle après la fécondation, mais ce n'est pas systématique. Hein.
D'accord. Donc malgré le cadeau,
elle meurt de toute façon.
C'est ça. Oui, on verra que les mâles des fois ne sont pas si importants que ça. Peut-être que est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Je ne sais même pas si ça amène une réponse, mais soulevée par un de nos auditeurs à Goma, en République démocratique du Congo, il dit qu'il est zootechnicien et il dit dans le monde animal, le sexe ratio est quasiment jamais de 1-1, est-ce que ça expliquerait la tendance masculine à la polygamie ? Alors là, parle-t-il chez les animaux ou plutôt dans la société humaine ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'une biologiste peut répondre à ça ?
Oui, déjà la question elle est vraiment très complexe. Hein. Il faudrait vraiment, c'est presque un sujet de thèse à lui tout seul cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement les sexes ratios ils sont quand même très variables dans le monde animal. Et puis si le lien il est à chercher les liens avec la monogamie et la polygamie. La monogamie elle existe relativement peu dans le monde animal, y compris chez les humains. Si on entend par monogamie le fait d'avoir un seul partenaire à la fois. Puisque c'est le sens biologique qu'on peut lui
D'accord,
donner.
D'accord, un seul partenaire à la fois, oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Ça existe dans le monde animal. Chez les oiseaux, il y a des cas de monogamie, mais ils sont temporaires. Tous les cas de monogamie sont temporaires. Après, comment est-ce que la polygamie et la monogamie est liée à une amélioration du taux de reproduction et liée au succès reproducteur ? Ce sont des sujets extrêmement complexes. C'est pas possible de répondre aussi vite.
Donc, ça ouvre des champs de recherche, toutes ces grandes questions-là.
Ah oui, complètement.
Et puis, il y a aussi, des histoires d'âme, des histoires d'amour animal qui peuvent finalement faire envie. Comme par exemple, on n'y pense pas, mais à la très riche vie sexuelle des escargots, hermaphrodites. Oui, les escargots, autour de la question pourquoi tous les goûts sont dans la nature. Écoutez voir comment ça se passe donc chez les escargots, dans la voix du comédien Thierry Gibault. Extrait de son spectacle qu'il a écrit et interprété seul en scène il y a déjà quelques années. La tige, le poil et le neutrino, extrait enregistré par Piotr Malevski et que nous avions diffusé à un autre amoureux des petites bêtes. L'écrivain homérique qui s'était penché sur d'autres vies que la nôtre, de l'escargot jusqu'au ver de terre. Écoutez, ça vaut le détour et même l'aller-retour.
Prenons le cas d'Elix aspersa. Elix aspersa qui est un hermaphrodite vrai, c'est-à-dire qu'il est mâle et femelle toute l'année. L'appareil reproducteur est très complexe. Il se divise en trois parties. Une partie originelle, où les sexes sont confondus, hermaphrodite. Une partie intermédiaire, où l'on observe séparément la voix mâle et la voix femelle. Et une partie terminale où ces deux voies se rejoignent sur un orifice génital commun. Cet orifice est situé sous l'œil droit. Alors en mai-juin, mais aussi en août-septembre, la période de l'accouplement est une lente mise en œuvre d'amour pour l'escargot. Et elle est lente parce que l'escargot est lent par nature. Les escargots se recherchent, s'observent, se rapprochent, se choisissent, se mordillent, etc., etc. À un moment donné, le petit dard calcaire qui se trouve dans la voie femelle sort de l'orifice pour aller piquer le pied du partenaire. On observe alors une dévagination du pénis et du vagin. Les escargots s'accouplent tête-bêche, le pénis de l'un pénétrant le vagin de l'autre et inversement. Chacun expulse son spermatophore qui est le long filament cartilagineux imprégné de spermatozoïdes. Alors évidemment, Ces spermatozoïdes vont devoir suivre un parcours compliqué pour aller féconder les ovules. Comme je le disais, l'accouplement est long parce que l'escargot est lent par nature. Ça peut durer jusqu'à 10 heures. Les escargots s'accouplent par race et par provenance. Oui, le bourgogne d'Auvergne refuse de s'accoupler avec le bourgogne de l'Est et le petit gris du midi de la France ignore le petit gris d'Algérie. Lorsque l'accouplement est terminé, les escargots se reposent côte à côte plusieurs heures et puis s'alimentent et s'abreuvent.
Sélectifs dans leur étonnante vie érotique, les escargots Amérique.
Alors l'escargot est lent, mais je crois qu'avant tout il est sensuel. C'est pour ça qu'il... Qu'il met 10
heures. Prend son temps, oui, c'est ça.
Mais c'est merveilleux, ça fait rêver, une double pénétration.
Voilà. Oui, l'air de rien, voilà, c'est bestiole. Oui.
C'est comme le ver de terre, quel homme ne rêve pas d'avoir deux paires de testicules, et voilà. Même, combien d'hommes ne rêvent pas d'avoir aussi un vagin. Mais je crois que les rapports amoureux, si on était aussi bien accessoirisés génitalement, ça serait fantastique.
Est-ce que ça vous fait rêver, Emmanuel Puydébat ? Alors, je ne sais pas, les deux testicules du ver de terre ou l'hermaphrodisme de l'escargot qui fait quand même l'amour dans tous les sens et de toutes les manières pendant 10 heures. Hein. Moi, j'ai bien entendu ça.
Oui, oui, oui. Non, c'est assez hallucinant. Puis ces histoires d'autofécondation, c'est vrai que c'est assez fascinant. Après, 10 heures, je crois qu'il y a un record dans le monde animal chez les phasmes. Vous savez, c'est ces insectes qui ressemblent parfois à des branches.
Oui.
Où le mâle va s'accaparer la femelle pendant, je crois que le record, c'est 79 jours.
Quoi ?
pour être sûr qu'elle ne s'accouplera pas avec un autre mâle. Donc oui, non, c'est...
Je ne sais pas si ça fait rêver, ça. Je ne suis pas sûre
non,
que je rêverai d'être
phasme. Non, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir du rêve derrière. Mais par contre, ce qui est fascinant, ça c'est sûr, c'est ses capacités de s'auto-féconder chez certaines espèces dans des cas d'hermaphrodisme. Ou même, parce que dans les cas d'hermaphrodisme, ce qui est incroyable, c'est que donc, y a le même individu peut avoir les œufs et aussi les spermatozoïdes. Et après, il y a d'autres phénomènes comme la parthénogénèse, ça c'est chez des plus grosses bêtes où c'est une cellule femelle, donc une gamète femelle qui va se diviser et qui peut donner naissance à un petit. Et ça existe chez des plus grosses bêtes comme des requins ou le dragon de Komodo. Et ça, c'est voilà, ça fait partie des mécanismes de fécondation, d'auto-fécondation qui sont assez fascinants.
Et dans ce cas-là, il n'y a que les femelles, hein, on est bien d'accord, il n'y a plus besoin des
mâles.
Oui,
oui. Non, tout à fait, on est bien d'accord.
Sauf
ce sont des femelles qui arrivent à faire des bébés toutes seules.
Voilà, donc ça existe dans la nature. Ouais. On n'a plus besoin des mâles, mais sauf quand, par exemple, alors il y a aussi, moi ça me plaît bien, le pénis chantant du batelier d'eau, c'est ça, racontez-nous. Enfin
oui.
Voilà, faites-nous, non pas
d'eau,
entendre, mais voilà, c'est quoi déjà un batelier d'eau ?
Bah, alors, un batelier d'eau, c'est un petit insecte, c'est la famille des punaises. Donc ça fait bon, de prime abord, ça fait pas forcément rêver. Hein. Quand on sait d'ailleurs chez les punaises, il y a énormément de cas de copulation qui sont absolument horribles
pour
la femelle.
Ah oui, clairement.
Mais en tout cas, chez le batelier d'eau, ce qui est incroyable, c'est que donc, le mâle, il a effectivement un pénis chantant, c'est-à-dire qu'il va frotter, alors on ne dit pas pénis, on dit EDH, mais peu importe, hein, il va le frotter contre son abdomen et il va produire jusqu'à 99 décibels. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque le barrissement d'un éléphant. Je dis presque parce qu'on est... c'est juste pour vous donner... C'est colossal par rapport à la taille de l'espèce.
Insecte,
ah oui. Et le but, c'est d'attirer la femelle. Donc voilà, monsieur chante. Alors, avec son pénis, certes, mais monsieur chante. Donc ça, c'est assez unique dans le monde animal et je trouve ça super rigolo.
C'est super rigolo, c'est extrêmement bien illustré et dessiné par Julie Terrazzoni, parce que vraiment, elle fait ça comme des planches anciennes, c'est poétique,
c'est
esthétique. Et puis alors, à chaque fois, il y a la taille du sexe à côté de la taille de l'animal. Enfin, c'est franchement extra. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette couverture. C'est un argonaute, c'est ça ?
Oui.
Racontez-nous,
oui.
Décrivez-nous cet argonaute. En couverture de Sexus Animalus, Emmanuel Puydébat.
Bah, cet argonaute, il faut imaginer comme une petite pieuvre, comme un petit poulpe. La femelle étant protégée dans une nacelle, imaginez un gros coquillage, disons, elle est protégée dedans et le mâle non. Et puis le mâle est minuscule par rapport à la femelle. Donc la couverture, c'est cette femelle qui est protégée par sa nacelle. Et un peu plus en dessous, on voit le mâle qui est tout petit et qui, lui, pour s'accoupler justement avec cette grande femelle qui doit être bien impressionnante vue par un mâle argonaute, lui, en fait, il a ce qu'on appelle il a des tentacules. Hein, et il y a une de ces tentacules qui est spécialisée pour l'accouplement, qu'on appelle ça un ectotyle. Et donc, lui, il va placer son ectotyle dans l'orifice de la femelle et il va s'en aller en laissant son ectotyle dans la femelle. C'est-à-dire que je pense que là, pour le coup, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre le mâle et la femelle est telle, entre le mâle et la femelle est telle, que le mâle, il laisse son pénis, son ectotile à l'intérieur de la femelle et il s'en va, sachant que son pénis va repousser ensuite. Hein, donc c'est pas grave.
Puis il est vraiment tout petit, le petit argonaute, face à la très belle et très grande et géante argonaute, qui est donc en couverture de votre livre Sexus Animalus, sous-titré Tous les goûts sont dans la nature. Autour de la question pourquoi tous les goûts sont dans la nature et toutes les tailles et toutes les formes d'organes aussi. Allez, on s'arrête évidemment sur le zizi, celui de Pierre Perret, mais revisité par François Morel et Didier Wampas. Ça commence l'air de rien, et puis ça déménage. Sur RFI, tout est permis.
Des zizi, il y en a toutes les couleurs, au gué, des boulangers jusqu'au ramoneur, au gué, j'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs, j'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses, celui d'un mécanicien en détresse, qui a jamais pu réunir ses pièces.
Tout propre du blanchisseur, ok, ok. Celui qui a mis donne la main de ma soeur, ok, ok. J'ai du zizi la curée, faire son petit chapeau violet, qui juste en plein ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule, et celui du pape qui fait les bulles. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le bon, qu'un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le bon ride. Ok, ok, qui sonne l'angélus, les mains dans le dos, ok, ok. Celui d'un marin moto qui avait perdu ses pompons, et celui d'un juif cossu qui mesure un tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup, le gros touffu, le petit loufou, le grand cridé.
Quand Didier Wampas et François Morel revisitent le zizi de Pierre Perret, on se permet tout. Sur RFI, autour de la question pourquoi tous les goûts et tous les organes sont dans la nature, on continue de feuilleter votre étonnant et détonnant ouvrage, Emmanuel Pouydébat, Sexus Animalus, magnifiquement illustré par Julie Terrazoni, et dont nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, pour tout savoir, ou en tout cas savoir ce que l'on sait, ce que l'on peut observer de la diversité sexuelle des animaux. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Comme nous le rappelait ici même le biologiste Thierry Laudet, lui l'auteur entre autres de La biodiversité amoureuse et des animaux infidèles aux éditions Odile Jacob.
C'est clair qu'on a eu tendance pendant des années et des années à réduire les animaux sauvages à la seule fonction de reproduction. En fait, leur capacité à s'amuser avec le sexe, à pratiquer tout un ensemble de sexualités alternatives est maintenant largement prouvée par de nombreuses études. Les plus connus sont très probablement les bonobos qui n'hésitent pas à pratiquer le sexe pour un oui, pour un non. Mais la pratique de la sexualité se fait aussi bien chez d'autres espèces. Par exemple, il suffit d'observer les mésanges au printemps et on verra que bien que la femelle a déjà pondu ses œufs, bien qu'elle commence déjà à couver, voire même bien que les petits soient déjà nés, monsieur mésange bleu, quand il va rencontrer madame mésange bleu, va solliciter tout de suite un petit câlin. On peut aussi penser à tous les animaux capables de se masturber ou encore, par exemple, très récemment, on a découvert que des espèces de chauves-souris passaient pas mal de temps à la fellation. Vous voyez, des tas d'activités comme ça qu'on ne peut pas qualifier de reproductrices.
Et voilà bien toute la question, Emmanuel Pouydébat. Alors, les chauves-souris, vous le soulignez, avec une magnifique aussi illustration de Julie Terrazzoni dans cet ouvrage, les chauves-souris adeptes de fellation et de cunnilingus. Et oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec la reproduction, ça, si je ne m'abuse.
Non, pas vraiment. Alors, alors avec la reproduction directement, mais, enfin, oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que que ce soit cunnilingus ou la fellation chez les chauves-souris, elles ont, en général, ça a lieu avant et après la pénétration, voire pendant la pénétration parfois. Et il semblerait, il y a des travaux qui ont montré ça, que ça permette d'augmenter la fécondation. Parce qu'en fait, plus l'accouplement est long, on peut supposer que le cunnilingus et la fellation ont un effet positif sur ces animaux, il n'y a pas de raison. Et donc, ça rallongerait la durée d'accouplement. Et donc, du coup, ça optimiserait la fécondation. Vous voyez le lien
mais absolument,
indirect qu'il y a.
Mais absolument. De l'intérêt du plaisir, finalement. De l'intérêt du plaisir. Et des préliminaires, parce qu'il y a aussi des préliminaires.
Tant qu'on a des aspects liés à l'hygiène, puisqu'on sait aussi que ces comportements-là chez la chauve-souris permettent de lutter aussi contre les IST. Donc tout ce qui est, disons que ce serait un antimycosique et un antibactérien. Quoi.
Ouais, d'autant qu'on le sait, les chauves-souris. Et c'est ça, joindre l'utile à l'agréable, d'autant que les chauves-souris, on le sait, elles trimballent pas mal de virus qui ne leur font rien, mais elles ont intérêt à se lécher.
À
c'est ça, hein,
oui, voilà. Oui, complètement.
Et donc, il y a donc du plaisir, il y a du désir aussi dans ce que vous avez étudié. Alors, on pense évidemment au bonobo qui règle tout par le sexe, mais vous nous...
Clairement, chez les primates, il y a beaucoup d'exemples. Même avec des étudiants, on a déjà vu pas mal de fois des utilisations de sextoys, hein, par exemple. Hein.
Par les primates.
Ouais, on a déjà vu des femelles orang-outans utiliser des feuilles ou des petites branches pour se caresser. Enfin, on voit bien qu'il n'y a aucun lien avec l'accouplement. C'est vraiment du plaisir personnel et individuel. Et puis l'orgasme, il est largement prouvé dans le monde animal. Alors, il n'a pas pu être étudié, évidemment, chez toutes les espèces animales, hein, on s'en doute bien. Mais par contre, chez les rats, qui sont étudiés en long, en large et en travers, d'ailleurs, les pauvres, on a très bien montré que dans le cadre de l'accouplement, il y avait une augmentation des fréquences cardiaques, une augmentation des contractions utérines. Il y a énormément de quantifications d'ultrasons.
C'est ça, ils sont très sonores, hein, les rats quand ils ont un orgasme.
Ah oui, c'est très sonore. Et puis, il y a aussi des molécules, si vous voulez, qui sont liées au plaisir, comme les endorphines ou les opioïdes, qui sont quantifiées au moment de l'orgasme, en lien avec les contractions du périnée chez les femelles. Donc, c'est vraiment comme chez nous. Il y a vraiment un plaisir au moment de l'accouplement et y a des vrais orgasmes chez les rats, par exemple. Donc, s'il y en a chez les rats, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y en a pas chez les autres mammifères.
En gros, nous n'avons rien inventé. Enfin, nous, les humains, hein, qui sommes parfois très fiers de nos amours en sexualité, en termes de sexualité, on n'a pas inventé grand-chose, finalement.
Non, mais il n'y a pas qu'en termes de sexualité, j'ai envie de dire globalement.
Merci, vous nous rassurez, Emmanuel.
Je pense que c'est ce que j'essaie de montrer au travers des bouquins, finalement, parce que c'est ce qui me fascine, en fait. C'est que j'ai l'impression que tout existe depuis bien longtemps. Alors, sous une diversité, évidemment, gigantesque. Et puis, bah, nous, on a hérité de toute cette évolution, si vous voulez. Et puis, voilà, on met tout ça à notre sauce, hein, si j'ose dire. Hein. Mais en tout cas, en termes de sexualité, on n'a rien inventé, ça, c'est sûr. Hein. Alors, après, il faut faire attention. Un cunnilingus pour une chauve-souris, c'est peut-être pas la même chose que chez nous. L'homosexualité, ça n'a pas forcément le même sens que chez nous. Vous voyez, il faut faire attention aussi.
Bien sûr, pas d'anthropomorphisme.
Voilà.
Oui. À nos auditeurs sur les réseaux sociaux, alors j'ai plus son nom, mais nous demandait est-ce qu'il y a des fantasmes chez les animaux. Mais alors ça, on n'en sait rien du tout. Il faudrait se mettre dans
le... Enfin, on ne peut pas le savoir.
Mais oui, c'est une magnifique question, mais impossible à répondre.
C'est le drame de ma vie, c'est que je ne me réveillerai jamais dans la tête d'un des animaux que j'étudie. En ce moment, j'étudie les éléphants et je vous jure, j'aimerais bien être un éléphant pour comprendre tout ce qui se passe. Mais malheureusement, les fantasmes, c'est difficile de... On ne peut pas savoir, en fait. On n'est pas dans notre tête. On peut toujours faire des suppositions. Je ne sais pas, dans les grands singes qu'on a observés, certains utilisent des sextoys, d'autres pas. Peut-être que certains rêveraient d'en utiliser, mais ils n'osent pas parce qu'ils ne sont pas dominants. Je ne sais pas. On peut toujours... Mais là, si on est dans l'ordre de l'imaginaire, mais pourquoi pas?
Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous étudiez chez les éléphants là ? Qu'est-ce qui vous surprend le plus, Emmanuel Boulébat ?
Chez les éléphants, là en ce moment, moi je suis plus sur la dextérité de la trompe. Les éléphants ont une trompe absolument exceptionnelle en termes de précision et de puissance. Il n'y a pas d'os dans la trompe en plus. Donc alors qu'ils peuvent utiliser des outils, enfin ils sont extrêmement performants. Et ça intéresse aussi l'industrie puisque ça peut nous aider à créer de nouveaux robots souples pour différents projets, que ce soit dans la santé, dans l'industrie ou dans le médical, dans l'écologie, enfin dans plein de domaines.
On termine cette émission autour de la trompe de l'éléphant. On avait commencé avec le sexe de l'éléphant qui était particulièrement long. Est-ce que vous sauriez maintenant, puisque c'est à partir d'un jeu de reconnaissance hein, des animaux et de leur pénis, est-ce que vous sauriez mieux maintenant, vous avez travaillé là-dessus, reconnaître, enfin mettre le pénis, reconnaître le pénis de chaque animal ou l'organe génital de chaque animal, puisque c'était si compliqué.
Ouais, je vais être super honnête, c'est que si on me remet le même quiz, je pense que oui. Parce que ce sont des animaux que j'ai un petit peu explorés. Mais si on me met un quiz aléatoire, j'en suis pas sûre du tout. Parce qu'encore une fois, il y a une telle diversité. Dans le bouquin, j'ai pas pu parler des 2 millions de pénis qui existent. Enfin, si on suppose qu'il y a 2 millions d'espèces animales. Ouais. Parce que ça aussi, c'est discuté entre 2 et 10 millions. Donc forcément, je pourrais encore me tromper. Je pourrais encore me taper un 4 sur 20. C'est votre question.
Merci pour votre franchise, Emmanuel Pouilleba. Merci d'avoir été en direct avec nous, même s'il y a eu quelques petits soucis liés. On est vraiment content d'avoir partagé avec vous cette incroyable, stupéfiante, déconcertante biodiversité sexuelle des animaux. Je rappelle que votre ouvrage Sexus Animalus, superbement illustré vraiment hein, par Julie Terrazzoni, est publié aux éditions Artaud et qu'il vaut tous les détours, on ne s'en lasse pas. Vous revenez quand vous voulez, Emmanuel Pouilleba, nous parler des trompes, des éléphants et de la sexualité
avec
des
plaisir.
Animaux. Ah oui, partagez en tout cas vos recherches sur tous les comportements des autres animaux. Au revoir Emmanuel et merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de nos rediffusions estivales et des meilleurs moments de l'année écoulée avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Rendez-vous demain pour d'autres interrogations à partager avec vous, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, c'est l'heure de retrouver les informations sur RFI. Milliards.